Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 35e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorités du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, le house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial. Mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Aujourd'hui, on va remonter dans le temps par rapport aux épisodes précédents, puisque notre histoire commence grosso modo pendant le Summer of Love en 67. On va revenir sur plein de trucs qu'on a déjà abordés, et c'est normal. Aujourd'hui, nous allons parler de rock progressif. Les valeurs et la musique de la contre-culture américaine traversent l'Atlantique et conquis les jeunes Britanniques. Dans les studios d'Abbey Road, les Beatles enregistrent un album qui capturera l'esprit de ces temps et changera le rôle de la pop music pour toujours. Ils tournent le dos au concept du single en 3 minutes et créent le premier album concept. C'est un des premiers albums à utiliser le studio comme un instrument à part entière.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes.
Ringo Starr disait dans une interview sur la BBC qu'il y a plus de fun dans un disque quand on n'arrive pas à déterminer à l'oreille quels instruments ont été utilisés. Quelque chose se passe sur la table de mixage. Je pourrais pas vous dire quoi parce qu'on a un gars spécialisé qui fait ça. Il tourne quelques boutons et là, la guitare sonne comme un piano. Mais pourquoi pas utiliser un piano, me direz-vous ? Bah parce que le piano sonne comme une guitare maintenant. avant même qu'il soit sorti, l'album est prisé comme une révolution musicale. Ed Stewart joue l'album entier sur la radio pirate qui émet depuis un bateau, Radio London. D'ailleurs, parenthèse pop culture, regardez le film A Boat That Rocked avec Bill Nye, Nick Frost et Chris O'Dowd pour ne citer que. Ah oui, pardon, c'est vrai que la plupart des gens qui m'écoutent ici sont français. Le titre francophone de ce film, c'est... Good Morning England. Sérieux. Bref, cet album, diffusé par Ed Stewart, aura un grand effet sur un jeune DJ écoutant depuis le studio d'à côté, John Peel, qui se mettra carrément à pleurer en l'entendant. D'autres groupes suivent rapidement la progression des Beatles, leur progression et leur côté progressif. Le son improvisé et non commercial des Pink Floyd gagne vite les masses. Les Floyds embrassent le nouvel esprit de l'expérimentation studio, collant parfaitement à l'ère du temps alternatif. D'autres groupes prog comme The Nice commencent à apporter de nouvelles influences comme la musique classique. Claviériste Keith Emerson est vite reconnu comme un virtuose et un sacré showman. Les groupes poussaient les frontières de la pop dans de nouvelles directions. Cette nouvelle musique est rapidement nommée Progressive Rock. En 69, King Crimson sort un album qui semble résumer le genre. And the Court of the Crimson King est vu comme le premier album de rock progressif. frontalement anti-commercial, la musique du groupe est destinée à un auditoire peut-être plus âgé, en tout cas avec une oreille plus expérimentée. Maintenant, les Pink Floyd se sont séparés de leur chanteur Syd Barrett. Sous le leadership de Roger Waters, eux aussi commencent à complètement abandonner le son radio-friendly des singles pour expérimenter les plus larges possibilités qu'offre le format LP. Ailleurs, la virtuosité musicale remplace l'expérimentation studio. En 70, Keith Emerson rejoint le bassiste de King Crimson, Greg Lake, et le batteur virtuose Carl Palmer. Ensemble, ils deviennent un des premiers supergroupes de rock. Et quand je dis supergroupe, je l'avais peut-être pas dit dans le précédent épisode, c'est pas un jugement de valeur. Ça veut juste dire que c'est un groupe dont les membres viennent d'autres groupes déjà très connus. Mais ça ne plaisait pas forcément. Le groupe paraît prétentieux. Parfois, il peut être bien, mais souvent, les shows emmerdent le public. À l'exception des petits bourgeois qui se prennent pour de grands mélomanes et en font trop autour de ce groupe. Mais quoi qu'on en pense, pas de doute sur les talents d'Emerson. Il connaît la musique classique et en a la discipline. Mais les critiques restent pas convaincus. Et comme ELP, Yes apporte également des influences classiques et un éclectisme musical au nouveau genre sous le lead de leur chanteur, John Anderson. Ses allusions aux classiques sur eux. Rick Wakeman, le claviériste, a même étudié au Royal College of Music, l'université royale de la musique. Mais le groupe est quand même vu comme quelque chose d'un peu stupide. D'un côté, on a ce claviériste de classique virtuose. De l'autre, on a John Anderson qui chante des trucs totalement absurdes et surréalistes, juste parce que les mots sonnent bien musicalement. Mais c'est aussi ce qui les rend populaires et connus paradoxalement. Et en plus de ses paroles, Yes est aussi connu pour ses couvertures d'albums qui capturent parfaitement l'état d'esprit non commercial du prog. Elles sont le travail de Roger Dean, qui a designé le bar du club de jazz de Ronnie Scott à Soho. Le LP, avec son design et son concept unifié, a remplacé le single pop en tant que manière la plus importante de diffuser la musique rock. Les pochettes d'albums deviennent comme un badge d'appartenance pour la communauté de fans de prog rock, identifiable comme une race particulière de fans. Ce sont des enfants de la classe moyenne. Il y en a toujours eu dans le rock, ces enfants essayant de ressembler à la fois à l'aristocratie et aux prolétaires. Mais là, le rock de la classe moyenne fait vraiment son coming out. Et qui dit nouvelle sorte de fan dit nouvelle sorte de spectacle. L'émission The Old Grey Whistle Test devient le nouveau véhicule de cette nouvelle musique phobique des charts. Le prog rock est maintenant un phénomène international et le Old Grey Whistle Test fournit une plateforme pour les groupes originaires d'autres pays que le Royaume-Uni. Quand l'Angleterre a le prog, les Allemands ont des groupes comme Can ou Tangerine Dreams, expérimentant avec les sons électroniques et les rythmes trance. Le groupe hollandais Focus joue dans l'émission, leur vente décolle si vite et si fort que leur label doit consacrer toute leur usine de pressage à fabriquer uniquement leur album pendant 10 jours. l'aide de The Old Grey Whistle Test, les groupes de prog commencent à vendre de façon plus mainstream. En 1973, Pink Floyd sort un album concept qui surpassera tout le monde. Side of the Moon est produit par Chris Thomas qui utilise aussi le studio comme un instrument. Ça se vend par millions. À ce jour, aucun groupe n'a gardé un album dans le top 40 plus longtemps qu'eux. Pendant que les Pink Floyd profitent de leur succès, d'autres groupes de prog créent des sons qui doivent plus à la musique pastorale anglaise. Genesis se forme à Charterhouse Public School. Et petite précision, en Angleterre, public school ne veut pas dire école publique, ce sont des écoles bien privées. Donc une école avec une grande tradition de chorale qui s'infiltre dans la musique du groupe. Avec la complexité de leur musique, Genesis était connu pour la présence scénique très théâtrale de leur chanteur Peter Gabriel. Et avec les salles qui s'agrandissent, les shows sur scène aussi. Mais ce mix de rock classique et de performance ne plaise pas à tous les membres du public. Mais quand on dit qu'on n'aime pas, on nous rétorque qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent faire. Donc on se range et on dit que c'est super comme tout le monde. Le spectacle visuel comme la musique complexe et comme les couvertures de R.O.P. Concept deviennent centraux dans l'expérience prog rock. Rick Wakeman emmène même son spectacle solo King Arthur, le roi Arthur, sur la glace. Vous savez, c'est show on ice. Un exemple parfait d'à quel point c'est devenu con. Comme si la musique était devenue secondaire en fait. Emerson, Lake et Palmer prennent trois semi-remorques pleins de gadgets et de décors pour leur tournée en Amérique. Et tout le monde commence à se foutre de leur gueule. Le succès du prog commence à aliéner son audience. En 1976, les musiciens de prog sont devenus comme une royauté du rock. Et une décennie après le Summer of Love, les gens se tournent à nouveau vers les États-Unis pour trouver une alternative. Et ils la trouvent dans le punk. Et comme le rock psyché, le punk traverse vite l'Atlantique. Mais ça, on en a déjà parlé. Écoutez les trois derniers épisodes sur la naissance du punk si ce n'est pas déjà fait. Subculture, c'est fini pour cette saison. Et oui, on se retrouve en septembre pour continuer la folle épopée de la musique underground et populaire actuelle. Vous pouvez en attendant retrouver tous les épisodes précédents en podcast sur radiofmplus.org en écoute et téléchargement illimité à la demande. Quant à moi, je vous dis gros bisous. À bientôt. Passez tous un super été. Sortez, allez dans les festivals, les concerts, jouez vous-même, montez des groupes, des spectacles solo, des sound systems, des DJ sets. Faites vivre la musique, parce que c'est vous et uniquement vous qui avez le pouvoir de la faire vivre. Écrivez le reste de son histoire. La musique est belle, la musique libère. À ciao, bonsoir.